Dutrisac. L'original. Radio. Dutrisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Oh, bonjour tout le monde, lundi 27 septembre 2021, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui à 12h15, on aura le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui annonce deux nouvelles mesures pour favoriser l'accès à la justice pour les personnes victimes de violences sexuelles et de violences conjugales. Puis quand il y a des procès, ben tu sais, ceux qui sont accusés, puis sont vedettes, puis ont beaucoup d'argent, peut-être que de temps en temps, il faudrait peut-être les trouver coupables. Et ça, c'est une autre affaire. Nancy Bédard sera avec nous à 11h15 pour cette annonce qui a eu lieu la semaine passée. 1 milliard pour contrer la pénurie d'infirmières. Il n'y a pas de pénurie d'infirmières au Québec. Arrêtez avec ça. Il y en a 100 de plus par 100 000 habitants au Québec que dans le reste du Canada. Alors, il est où le problème? On va en parler avec Mme Bédard tantôt. Mais tout d'abord, vous avez vu cette nouvelle. En fin de semaine, l'ancien diplomate Michael Kovrig et l'homme d'affaires Michael Spavor, qui était détenu en Chine depuis 2018, ont été libérés et renvoyés au Canada en fin de semaine. C'était vraiment magnifique. Par hasard, seulement quelques heures après le retour en Chine de la directrice financière du géant des télécoms Huawei, Meng Wanzhou, qui était détenue au Canada, mais dans des conditions un peu plus sympathiques que celles de nos deux Canadiens qui étaient pris en Chine. Avec nous, Guy Saint-Jacques, qui est un ancien ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrisac.
Avez-vous arrêté de rire, vous, depuis en fin de semaine? Rire jaune, là, on s'entend, mais quand même.
Ben d'abord, j'étais aux oiseaux quand j'ai appris cette nouvelle-là. Je trouvais ça incroyable parce que dans mon expérience, moi, je m'attendais à ce que les Chinois exigent des conditions de notre part, qu'ils continuent à prétendre que tout ça est un processus légal en bonne et due forme. Et j'estimais que dans le meilleur des scénarios, peut-être qu'ils seraient de retour ici à la fin du mois d'octobre. Puis je pense qu'on doit donner le crédit au président Biden qui a dû insister dans ses discussions avec Xi Jinping pour dire, écoute, si Mme Meng retourne en Chine, il faut que les deux Canadiens retournent. Puis, clairement, tout ça confirme qu'ils étaient pris en otage.
C'est carrément ça. Vous connaissez, j'imagine que vous connaissez le dicton chinois, M. Saint-Jacques, le hasard fait bien les choses. Ça s'applique. c'est une farce, là. On nous a ri, la Chine nous rit en pleine face. La libération des deux Michaels synchro avec la libération de Meng Wanzhou. Là, est-ce qu'on va tolérer ça? Est-ce qu'on va se faire rire comme ça en pleine face, le Canada?
Ben, j'espère que non. Puis, je sais pas si vous avez vu aussi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui, plus tôt aujourd'hui, commentait dans la conférence de presse, elle disait, le Canada, j'espère que le Canada a appris une leçon d'être les pions des Américains, puis qu'en tire les leçons, puis qu'ils gardent les yeux ouverts, puis qu'ils savent où sont leurs intérêts. Puis les deux Canadiens ont avoué leur culpabilité, puis on les a relâchés pour des raisons médicales. Ah. Fait que ça, moi, je pense que sur cette base-là, ça confirme que ça va être très difficile de reprendre une relation avec la Chine. Puis de toute façon, ça ne peut pas revenir à la situation d'avant parce que la confiance a été brisée. Mm-hmm. Les Chinois, avec leur comportement, puis j'ose espérer que s'ils sont honnêtes et ils font une évaluation, ils vont se dire, cette fois-ci, la diplomatie des otages a fonctionné, mais ça va être plus difficile la prochaine fois parce que ils se rendent compte que leur réputation a été fortement ternie dans le monde. Ils ont noté aussi l'adoption de cette déclaration en février pour prévenir la prise d'otages. Maintenant, moi, ce que j'ai dit, c'est que le gouvernement canadien devrait travailler avec les pays amis pour aller plus loin avec cette déclaration-là, pour s'entendre sur des sanctions qui seraient prises en même temps par tous les pays à l'encontre de la Chine si elle ose faire ça, mais il va falloir aussi que qu'on revoie complètement comment on fait affaire avec les Chinois et que ça soit basé sur la défense et la protection de nos intérêts et de nos valeurs.
Est-ce que, M. Saint-Jean, est-ce que vous parlez de cette alliance-là des 65 pays pour combattre la détention arbitraire? Parce que c'est ce à quoi on a assisté, là.
Oui, oui. Et puis, Ça, c'est un des seuls éléments de la stratégie canadienne qui a bien fonctionné, d'aller chercher des appuis dès le départ. En fait, c'est moi qui avais suggéré ça à Ottawa en décembre 2018. J'ai dit, allez demander aux pays amis de faire des démarches. Puis il y a plusieurs leaders étrangers qui ont soulevé le cas des Michael. C'était la première fois que un pays faisait ça, parce que la Chine utilise ça régulièrement, là, la prise d'otages. Puis ensuite, quand la déclaration a été adoptée, on a vu qu'ils n'étaient pas contents parce qu'ils en ont parlé, ils ont essayé de ridiculiser ça dans leur conférence de presse, mais c'est sûr qu'ils ont noté. Puis là, plus récemment, on a vu la semaine passée cette nouvelle entente entre les États-Unis, l'Australie puis la Grande-Bretagne pour contrer la Chine. Il y a une autre organisation qui s'appelle le Quad, puis c'est ça qui s'oppose à ce que la Chine fait. Ça, c'est ce qui hante la Chine. Ils ont peur que les autres pays se regroupent pour l'empêcher d'avoir ses visées comme elle veut. Puis là-dessus, moi, je dis, c'est la seule façon de faire affaire avec la Chine. Il faut, tout seul, on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais si on s'assied avec d'autres, puis qu'on a un ton ferme pour dire à la Chine, c'est fini de prendre des otages, c'est fini d'utiliser le commerce pour punir un pays. J'ose espérer qu'on va les forcer à changer de comportement.
C'est ça. C'était ma prochaine question, M. Saint-Georges. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Parce que vous avez été ambassadeur en Chine. Qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on fait face à la Chine, au pouvoir chinois, à la dictature chinoise? Comment on leur parle? Comment on devient ferme ou on essaie de plier avec le vent? Quelle est la stratégie à prendre?
Ben, d'abord, voyez-vous, il y a un paradoxe parce que même si les relations politiques étaient au plus bas, cette année, après 6 mois, nos exportations sont à un niveau record, ça a augmenté de 23%. Puis ça démontre que les Chinois vont toujours avoir besoin de notre canola, de notre porc, de notre cuivre, de notre fer. Et ça nous donne une certaine marge de manœuvre parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, écoutez, là, il ne faut pas être trop dur avec la Chine parce qu'on va perdre des marchés. » Moi, je dis au contraire, la Chine a besoin d'un système international qui fonctionne, puis c'est à nous de les forcer à respecter les règles, d'aller à l'Organisation mondiale du commerce à chaque fois qu'ils infligent des punitions qui sont pas légales. Mais il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire en se tenant ensemble. Puis pour vous donner un exemple, on va avoir l'ouverture des Jeux olympiques à Pékin en février. Ça arrive rapidement. Moi, si j'étais à la place d'Ottawa, je consulterais avec les pays amis puis je dirais, écoutez, on s'entend-tu qu'il n'y a personne d'entre nous, aucun leader qui va à la cérémonie d'ouverture.
Ah oui.
Puis notre délégation qui va parader, là, on limite ça à 2-3 personnes.
Pis donc c'est quoi? C'est comme l'humiliation publique, là, d'être un État voyou, finalement, là, d'être dénoncé par les autres États.
C'est ça. Puis la Chine, parce que jusqu'à tout récemment, là, ils s'en sont tirés, là, en étant un État voyou, puis ils estiment qu'ils sont devenus tellement importants qu'on a tellement besoin d'eux sur le plan économique qu'ils peuvent nous demander n'importe quoi. Puis, au contraire, il faut leur dire, écoutez, 19% de votre produit intérieur brut dépend de des exportations. Puis, nous, on n'a aucun problème que vous soyez une superpuissance, okay, mais que vous arrêtiez vos comportements voyous.
Ma question pour vous, M. Saint-Jacques, là, il n'y a pas de toaster à gagner, là, il n'y a rien à gagner, là. Mais même si vous avez la bonne réponse, mais est-ce qu'on peut faire sans la Chine? Aujourd'hui, je lisais Loïc Tassé, qui connaît aussi la Chine, disait, à un moment donné, tu peux-tu dire, il n'y aura pas d'étudiants chinois qui vont venir au Canada, puis vos cochonneries en plastique cheap, vous allez les garder jusqu'à temps qu'on change d'avis. Est-ce qu'on peut se montrer téméraire face à la Chine?
Ben moi, je distinguerais dans tout ça, puis il faut être stratégique, parce qu'en fait, les parents chinois, il faut distinguer entre les leaders chinois qui sont corrompus, puis autoritaires, puis vindicatifs, puis le commun des mortels. Les Chinois aiment beaucoup le Canada, ils disent que c'est un pays propre, qui est beaucoup mieux que les États-Unis, le système d'éducation est bon, puis en plus, on offre la possibilité aux étudiants, après qu'ils graduent, de rester au Canada et de devenir résident permanent. Ça, l'éducation, c'est fondamental, c'est une priorité pour les parents chinois. Moi, je suis convaincu qu'ils vont continuer à vouloir venir ici. Puis la question devient pour l'université, bon, quelles limites elle met pour éviter de devenir trop dépendante d'une source
étudiante.
Puis aussi, c'est bon que une fois que la COVID, on va se débarrasser de cette cochonnerie-là, d'accueillir des touristes chinois parce qu'ils dépensent plus que les autres. Puis ça, c'est bon pour notre économie. Moi, je pense qu'on peut avoir ça parce que le régime chinois peut essayer de contrôler beaucoup de choses, mais en fin de compte, il ne peut pas empêcher des décisions par des parents chinois qui veulent envoyer leur enfant ici.
Donc, le Canada a un levier, là. On est capable de négocier avec la Chine. On n'est pas des valets, on n'est pas des concierges.
Ben, tout à fait. Puis, je pense que la Chine, c'est ça. Xi Jinping a parié gros, puis il va s'apercevoir que.
Le monde va se tanner. Ouais.
Un bon exemple de ça, c'est l'Australie. Ouais. L'Australie a adopté des lois pour prévenir l'interférence chinoise, puis malgré le fait qu'eux, ils exportent plus de 30% de leurs produits en Chine, ils leur tiennent tête, puis il faut s'associer avec eux, puis travailler de concert, puis. Et parce qu'aussi au sein du Parti communiste chinois, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents de la direction que Xi donne au pays. Puis ils disent pourquoi qu'on se fait des ennemis de pays amis comme l'Australie puis le Canada.
Ben oui.
Et ça, si on est ferme, ça va forcer un débat au sein du Parti communiste chinois pour dire est-ce qu'on est sûr qu'on s'en va dans la bonne direction?
Dernière affaire avant qu'on se quitte avec Guy Saint-Jacques. Là. Le ministre Garneau, le ministre des Affaires étrangères, là, avant les élections, on va voir s'il il va retourner au poste, mentionne que le Canada aura la Chine à l'œil. La Chine doit trembler quand il entend ça. Ça doit leur faire peur, quelque chose de rare.
Ben, en fait, M. McCallum avait dit ça aussi avant de partir comme ambassadeur à Pékin quand il m'avait remplacé là, au début de l'année 2017. Puis on a vu qu'est-ce qui est arrivé après. Fait, moi, je pense que il faut ce que je m'attends d'Ottawa, c'est qu'il travaille sur une nouvelle politique et que ça soit beaucoup plus clair pour la Chine. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux, puis qu'est-ce qu'on va pas faire. C'est sûr que sur des dossiers comme les changements climatiques puis les pandémies, il faut travailler avec eux, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on faisait avant pour les aider. La confiance est détruite, puis on peut pas poursuivre ça. Puis
Monsieur Saint-Jacques, on est en pandémie. Elle vient d'où la sacramouille de pandémie? Là, l'idée, c'est pas de s'en prendre aux citoyens chinois, là, puis de tomber dans le racisme anti-chinois. Oui. Là. Mais elle vient d'où la sacramouille de pandémie? Elle vient toujours bien de la Chine, qui a pris du temps avant d'alerter les partenaires, les pays, qui a essayé de terroriser puis d'intimider les médecins qui voulait sonner l'alerte. C'est ça, la Chine?
Ben oui. Et puis, en fait, moi, je suis convaincu que ce qui est arrivé, il y a eu un accident à l'Institut de virologie de Wuhan où ils faisaient des expériences pour rendre les virus plus transmissibles de façon, après ça, à développer des vaccins. Puis, il y a une chercheuse qui a disparu au mois de novembre 2019. C'est probablement le patient zéro. Et là, ils ont probablement parce qu'elle n'a pas pris toutes les précautions pour manipuler ça, elle a attrapé la maladie, ce qui est très transmissible, comme on le sait. Elle a transmis ça à d'autres personnes. Et puis là, après ça, les Chinois ont dû se dire on va essayer de contrôler ça. Ils n'ont pas suivi les règles qui avaient été mises en place pour réviser l'Organisation mondiale de la santé. Puis bien sûr, là, ils ne peuvent plus admettre ça parce qu'ils craignent les répercussions économiques. Écoutez, ça a causé une crise extraordinaire, puis ils peuvent pas reconnaître ça. Là.
Il devrait filer doux. La Chine devrait filer doux. Puis au contraire, ils sont aussi provocateurs puis aussi baveux qu'avant la pandémie.
Oui, mais là, je pense que c'est un peu comme le coq. Là. Ils font du petit coq publiquement, mais je suis certain qu'en privé, ils doivent commencer à dire, bon, faut faire attention parce que là, notre réputation est ternie. Puis là, les pays étrangers sont en train de s'organiser, de créer des alliances. Puis effectivement, c'est ça qu'il faut faire. Puis là, ça fait longtemps que je dis ça. Le seul langage que la Chine comprend, c'est la fermeté. Puis ils vont comprendre que même si on est petit, on peut leur faire payer un prix.
Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Toujours un plaisir de vous parler. Merci. À la prochaine.
Merci.